Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on parle d'amour, des formes d'amour et des typologies de couple avec la psychothérapeute et autrice Sarah Seriavic. Dans son dernier livre « Aimer sans masque » aux éditions du Seuil, Sarah Seriavic décrypte les rôles que nous jouons à notre insu et nos comportements amoureux. L'autrice nous éclaire ainsi sur les mécanismes amoureux qui font souffrir. Pourquoi la relation de couple est-elle si compliquée? Quels sont ces rôles que nous jouons à notre insu qui empoisonnent la relation de couple? Pourquoi les joue-t-on? Comment repérer et sortir de ces rôles pour une relation de couple heureuse? Ce sont ces questions que nous avons posées à l'autrice et psychothérapeute Sarah Seriavic. Bonjour Sarah.
Bonjour Amal.
Je suis ravie d'être avec vous.
Réciproque.
Eh bien, merci Sarah de nous recevoir chez vous pour parler de votre livre « Aimer sans masque » aux éditions du Seuil. Merci pour ce livre que nous avons beaucoup apprécié puisque c'est une invitation à l'amour véritable, un mode d'emploi à l'amour vrai, l'amour sans masque. C'est quoi aimer, Sarah, et pourquoi? C'est d'ailleurs de cette façon que vous démarrez votre livre. Est-il si compliqué d'aimer?
C'est important de comprendre que moi j'ai grandi dans la discorde de mes parents. Ça veut dire que j'avais des parents qui avaient deux violences différentes. Ma mère, c'était avec les insultes, les humiliations, le mépris pour son mari. Et mon père, lui, comme il n'avait pas les mots pour parler, lui, il employait les gestes. Hein, ça le débordait et il allait frapper, c'était plus fort que lui. Et moi, je me disais, mais comment se fait-il? J'ai enfant, hein, je me disais, mais comment se fait-il? Des gens... Vraiment, je voyais, moi, la beauté de mon père, la beauté de son être, et la beauté de ma mère, de son être. Et je me disais, mais comment on en arrive là? Comment deux beautés comme ça peuvent arriver à cette dégradation? Et ça a été la question de mon enfance et de ma vie, puisque j'en ai fait mon métier. Et puis... moi aussi, j'ai aimé parce que je suis une grande amoureuse. Et alors, j'ai fait exactement le contraire, hein, puisque j'avais vu ça et que j'avais trouvé ça terrible. J'ai adopté donc le premier rôle qui est à l'envers de ça, c'est-à-dire évidemment la sauveuse. Et j'ai compris que c'était pas du tout le bon plan. Parce que de vouloir être cette sauveuse que j'ai été au départ de ma vie amoureuse, me faisait vivre en face de l'agressivité. En face, je recevais de l'agressivité. Et pourquoi? Mais pas tout simplement parce que la sauveuse qui veut tellement être aux petits soins de son mari, qui anticipe ses besoins, qui sait presque à sa place, hein, ce qu'il faut faire ou pas faire, elle le destitue de son pouvoir. Donc forcément qu'elle va recevoir de l'agressivité. Et le sauveur, le sauveur va se retrouver victime de celui qu'il veut sauver. Donc j'ai compris à partir de là à quel point c'était bien plus complexe que d'être complètement à l'envers de ce que j'ai vu dans mon enfance. Et à travers ce que j'ai vécu moi en tant que femme et ce que j'ai entendu dans mon cabinet, j'ai développé tout un concept à partir de ces rôles. Je me suis aperçue que ces rôles que nous jouons, bien sûr, à notre insu, parce qu'on ne triche pas, hein. On ne triche pas. Mmh. Mes parents, ils ne faisaient pas... C'est des choses qui nous débordent. Ce sont des conditionnement. Et voilà l'objectif de mon livre, c'est d'aider les personnes à sortir de ces conditionnements. C'est les petits enfants intérieurs qui sont blessés et qui cherchent réparation chez le partenaire amoureux. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'au contraire, non seulement ça ne va pas réparer, mais ça va intensifier les blessures. Donc, ces rôles-là, ils viennent du triangle de Cartman. Cartman était un psychologue américain qui était élève d'Eric Berne, une des grandes figures, donc, Cartman, de l'analyse transactionnelle. Il a défini trois rôles. La victime, le sauveur et le bourreau. Et c'est vrai que quand il y a un sauveur, il y a forcément une victime, comme je l'ai dit tout à l'heure, et après un bourreau. Et on joue ces rôles en permanence. C'est une danse des rôles que l'on joue en permanence. Ça veut dire le sauveur, après avoir été victime de celui qu'il a voulu sauver, il va devenir bourreau, puisque il y a un moment où il va se venger. Il va dire quoi avec tout ce que j'ai fait pour lui, hein, ou pour elle, bien sûr, parce que c'est bien sûr féminin et masculin. Tout ce que j'ai fait, il ne reçoit pas cet amour, et ben, je vais lui montrer tiens, qui je suis. Et puis ça va se terminer en bagarre, ça va se terminer en règlement de compte. Et ces rôles se déclinent en d'autres rôles bien plus subtils.
Par exemple,
le prédateur, par exemple, hein, ça peut être, c'est le clown de service. Hein, c'est un bon prédateur qui émerveille tout le monde, qui épate tout le monde. Hein, c'est cet homme brillant, hein, que tout le monde a envie de rencontrer, que tout le monde a envie d'aimer. Et qui, une fois que l'amour est acquis, il va utiliser une autre façon d'emprisonner sa proie. Alors, tout ça, je le répète, et je tiens beaucoup à le répéter, est inconscient. Moi, je fais très attention à ces pervers narcissiques dont on parle beaucoup. Tout le monde devient pervers narcissique. Moi, dans mon cabinet, il n'y en a pas une qui ne vient pas sans me dire « Ah ben, mon mari ou mon compagnon » ou un qui me dise « Ma femme est une pervers narcissique ». Non, c'est très, très inconscient, ces rôles. C'est-à-dire que ce sont des âmes blessées qui n'ont tellement pas conscience de mériter l'amour que pour mériter l'amour, par exemple, ce prédateur va se sentir en droit de obtenir l'amour par tous ses talents, par tout ce qu'il mérite, et certainement pas par ce qu'il est. Donc, comme il n'obtient pas ce qu'il veut avec son cœur, il va utiliser des stratégies qui sont plus ou moins, elles, perverses. Ce sont des comportements pervers qu'il va utiliser. Voilà. Ces rôles, alors on retrouve donc dans le sauveur, on a le chevalier servant, on a le romantique, on a la puritaine, l'amazone aussi en est une. Puisque c'est une sauveuse qui veut se venger. Donc tous ces rôles se déclinent au fur et à mesure du temps et de nos relations. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que chaque rôle va induire un autre rôle en face. Et d'ailleurs, dans le livre se termine par une histoire que je raconte, Elsa et Simon qui vont se rencontrer. On voit tout de suite les rôles qui se jouent dès le départ. Puis on les voit évoluer dans le temps, avec les années. Et on voit que les rôles vont se transformer au fur et à mesure du temps. Et comment le rôle de l'un va induire le rôle de l'autre. C'est une danse des rôles que nous jouons, je répète, à notre insu et qui nous éloigne de l'essentiel, c'est-à-dire de ce qu'on cherche finalement, c'est-à-dire de l'amour. L'amour, ce n'est pas du tout ça. L'amour, c'est au contraire. C'est cette puissance de métamorphose qui va faire exploser les masques. Ça veut dire ces masques de chevalier servant, ces masques de sauveur, ces masques de romantique, ces masques d'Amazone, de prédateur. Tous les rôles vont exploser. C'est important de comprendre aussi que nous attirons le rôle qui correspond à notre problématique. C'est-à-dire quelqu'un qui a été abandonné va forcément attirer quelqu'un qui ne peut pas s'engager. Parce que la vie qui nous aime nous cherche dans nos élévations, dans nos évolutions. Et elle va nous faire rencontrer notre problématique justement pour en guérir. Et tant que l'on reste victime de la problématique, non seulement on n'en guérit pas, mais on l'intensifie. Donc, celui qui a été abandonné, il va rencontrer quelqu'un qui ne peut pas s'engager. Celui qui a envie de sauver, hein, parce qu'il ne se croit pas digne d'être aimé, et il croit qu'il faut enfermer l'autre dans un pouvoir, hein, pour être aimé, il va rencontrer une belle victime qui ne voudra pas être sauvée. Le caïd, il va perdre sa force. Et le clown de service, il va perdre son humour. Et c'est là où l'amour a une fonction fondamentale de faire exploser ces systèmes pour rencontrer l'être dans sa dimension humaine, c'est-à-dire avec ses failles, bien sûr, et aussi avec tout ce qu'il contient de plus vrai, de plus pur, de plus beau. Et le sens du couple, c'est de guérir ensemble ses blessures, pas l'un avec l'autre, mais l'un à travers l'autre. Parce que ce qu'il faut changer, ce n'est pas l'autre. C'est soi dans la relation. C'est la relation qui doit changer. Ce sont les enjeux de la relation qui doivent se transformer pour rencontrer l'essentiel, c'est-à-dire le vivant dans la relation.
Comment sort-on de ces rôles, Sarah ?
Comment sortir des rôles ? Déjà, en mettant de la conscience dans les rôles. Si je mets de la conscience dans ce rôle que je joue, déjà, les choses vont se transformer. Je suis en train de faire ma victime, ça y est. C'est l'autre. J'accuse l'autre. Dès que je suis dans l'accusation, c'est que l'autre. Et ça, c'est le toxique de la relation qui fait que on va ensemble boire du poison et entretenir ce poison comme une drogue. Et c'est ce que font beaucoup de couples. Ça peut durer des années, cette relation toxique. Où l'autre a tort et moi j'ai raison. Et donc, comment on va toucher cet être ? Simplement en prenant responsabilité de la part qui est à moi et que j'ai à transformer pour entrer dans une relation saine, c'est-à-dire une relation où on va trouver du plaisir ensemble, à grandir ensemble.
Alors, vous utilisez le théâtre pour faire émerger ces rôles. Comment vous en parlez dans votre livre ? Comment vous pourriez nous expliquer comment ça se passe, comment ça fonctionne, avec un exemple peut-être concret ?
Alors, ce n'est pas le théâtre, c'est mon atelier qui s'appelle le théâtre authentique. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce n'est justement pas du théâtre. Ça veut dire que c'est vraiment là. Réalité de la personne que l'on va vivre. Alors, ça vient du psychodrame. Alors, le psychodrame, c'est un grand mot qui fait très peur parce qu'il est très mal entendu. Psyché, drama. Ça veut dire que c'est la psyché que l'on va mettre en action. Et on va mettre en scène cette situation où je me crois victime de l'autre, par exemple. On va la mettre en scène et on va comprendre dans cette problématique comment je suis acteur, co-créateur de cette relation qui me fait tellement souffrir. Et on va aller à la blessure. Alors, bien sûr, c'est une blessure d'enfant qui n'est pas traitée. Donc, on va aller toucher la blessure d'enfant. Parce que, pourquoi on met ces rôles aussi ? Pourquoi ? Parce que L'enfant est naturellement amour. Et il grandit. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il entend des choses comme, par exemple, il montre avec beaucoup d'autorité le fait de ne pas avoir envie d'aller au guignol. J'ai pas envie d'y aller, hein, 7 jours où on va où il y a. J'ai pas. Et alors il le dit avec une autorité. Et il entend sa mère qui hurle de rire et qui dit quelle autorité. Hein. C'est tout à fait son grand-père. Il sera avocat comme son grand-père. Hein. On sent cette force hein, chez lui. Donc l'enfant entend que pour être aimé, il faut être comme le grand-père charismatique. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dire non. Quelqu'un qui marque son autorité. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre de côté toute sa vulnérabilité, toute sa sensibilité, toute sa fantaisie pour ne devenir que celui qu'on attend de lui, c'est-à-dire celui qui va remplacer le grand-père. Donc, ces rôles, qui sont des systèmes inconscients, puisque nous avons appris à être aimés comme ça, le sauveur, c'est le premier, hein, puisque l'enfant, souvent, a appris à être aimé en étant un bon garçon, hein, ou une bonne fille, une petite fille modèle. Donc, on va aller repérer ces systèmes et de voir comment ces systèmes qui marchaient quand on était enfant, parce que c'était un instinct de survie pour l'enfant d'être aimé comme ça, ne peuvent plus marcher en tant qu'adulte. C'est ça que la vie attend de nous, c'est que nous changions ces choses-là pour retrouver notre équilibre. L'enfant, je dis souvent, l'enfant enterre son âme sacrée, son âme la plus pure, la plus vivante, par instinct de survie pour être aimé de ses parents. Et il sait très bien au début qu'il enterre ça. Mais le problème, c'est que plus tard, adulte, il oublie d'éterrer cette âme. Donc il nous faut rencontrer les problématiques que l'on va rencontrer, c'est-à-dire ces problématiques d'amour que nous allons rencontrer pour faire émerger l'essentiel en nous. Alors, vous me demandiez un exemple, je vais vous en donner un. Ben voilà, il y en a un que je raconte dans le livre, qui est un homme qui est, alors lui, brillant. C'est vraiment un homme brillant. Oh, les filles sont fascinées par cet homme-là. Dans le groupe, elles rêvent toutes hein, d'avoir un homme comme ça. Et il est beau, il a tout. Il est le prince parfait. Et il travaillait d'abord en séance individuelle avec moi dans mon cabinet. Il a vraiment pris conscience dans le travail que nous avons fait ensemble d'à quel point il a eu une mère tyrannique et cynique même, qui le méprisait et qui lui faisait comprendre qu'il était rien et qui le mettait à son service. Il était né pour être au service de sa mère et de répondre à chacun de ses désirs, à elle, bien sûr, coupé de ses propres désirs. Et lui était vraiment fasciné par cette mère, elle aussi très charismatique. Il y a évidemment dans cette histoire quelque chose de transgénérationnel, hein. Ça se répète comme lui. Et donc, pour être aimé, il a dû se restreindre à n'être que ce qu'elle voulait qu'il soit. Et plus tard, il est devenu cet homme charismatique avec tout le monde, sauf avec elle. C'est-à-dire que les femmes, hein, d'un coup de regard, ça marchait. Et hop! Et ça, c'est ce qu'il méprisait. Et donc, cet homme ne tombait amoureux que de femmes qui avaient le même profil que sa mère, c'est-à-dire la froideur, le mépris. Et il croyait, en rencontrant ces femmes, sauver le petit garçon qu'il a été en transformant ces femmes froides en femmes aimantes. Bien sûr qu'il n'y arrivait pas. Donc on va mettre en scène cette situation. Alors à table, ça se passait dans un stage résidentiel, à table, il racontait, mais alors, toutes ses gloires. Et ses voitures, et les femmes, et ses appartements merveilleux, et ses voyages. J'écoutais ça, évidemment, sans répondre, bien évidemment, à tout ça, et bien sûr. Et arrive le moment où il va être dans ce théâtre authentique, il va choisir une femme dans le groupe pour représenter cette mère dont il a tellement peur. Alors, bien sûr, il choisit une femme charismatique, une femme brillante, hein, comme sa mère. Et il savait qu'il avait un compte à rendre à sa mère. Donc, je dis, vas-y. Et il est face à elle. Et cet homme brillant, hein, qui était tout droit, tout rayonnant, brillant, tout d'un coup, on le voit, mais physiquement, c'est extraordinaire, le corps dit tout. Se transformer. On le voit se recroqueviller, on le voit se ratatiner et on voit un petit garçon, un petit gringalet, comme disait sa mère, tout petit. Je dis, vas-y, mais dis-lui ce que tu as besoin de lui dire à cette femme. Il ne peut pas, il reste muet. Alors je lui dis, choisis dans le groupe ce petit garçon que tu as été. Et on choisit ce petit garçon. Et là, je lui dis, il faut aider ce petit garçon. Aide ce petit garçon à se défendre. Aide-le à être face à cette femme. Il regarde le petit garçon. Et là, il le regarde hargnant lui. Il prend un coussin et il commence à taper. Non, pas vers sa mère. Alors évidemment, dans le théâtre authentique, on ne va pas taper la personne. Bien entendu, tout le monde sort vivant. Mais il va prendre le coussin et taper en direction de... Et contrairement à ce qu'on attend, ce n'est pas en direction de sa mère qu'il va frapper. C'est en direction du petit enfant qu'il a été. Parce qu'il en veut à ce petit enfant de ne pas avoir été capable de se défendre. Et c'est ce petit garçon qu'il va punir sa vie entière en allant chercher des femmes qui ont le même profil que sa mère. Donc il frappe. Et tout d'un coup, il lâche le coussin. Il frappe par terre, je répète. Il lâche le coussin. Il regarde l'enfant. Et tout d'un coup, là, il y a une immense tristesse. La tristesse qu'il ne pouvait pas assumer. Et là, il va parler à l'enfant et les choses vont se transformer. Parce qu'il va commencer enfin à avoir de la compassion pour ce petit enfant qu'il a été et qu'il ne pouvait évidemment pas se défendre. Puisqu'il n'y avait pas de père à la maison, un père absent. Voilà un exemple du théâtre authentique où, en contact avec sa propre compassion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va contacter dans cette compassion? Il va contacter son cœur. Et dans son cœur, il va parler les mots de la vérité. C'est-à-dire, j'ai mal, je souffre et je suis totalement impuissant. Et quand il dit ces paroles, et qu'il les dit en direction de la mère. Quelque chose est en train de se transformer pour la mère, puisque elle aussi va entendre à travers ses mots sa propre impuissance, sa souffrance et sa blessure d'enfant à elle aussi. Voilà. Donc après, on va aller travailler dans le transgénérationnel. Mais tout ça ne se fait pas en une fois. On ne va pas travailler transgénérationnel dans ce même moment parce que il faut que toutes les blessures trouvent le temps de se réparer une à une. Donc, on va travailler d'abord sur cet enfant.
D'accord. Et donc, c'est une façon de sortir des rôles déterminés par l'enfance. Déterminés.
Oui, on peut faire plein de choses dans ce théâtre authentique. Je me souviens d'une fille aussi, ça c'était extraordinaire, qui avait une grand-mère, alors elle aussi une grand-mère charismatique, qui était mère d'un village. Tout le monde était fasciné par cette femme qui était merveilleuse en tant que personnage social, mais qui à la maison était mais vraiment une grand-mère méchante avec sa fille. Et même sa fille était tombée dans le piège de la fascination de sa mère. Mais elle, la petite fille qui voyait ça, elle détestait sa grand-mère. Et elle nous raconte dans ce stage, je suis allée à l'enterrement de ma mère, j'ai vu tout le monde pleurer et j'avais envie de hurler. J'avais envie de rire même de cette comédie vivante et de cette comédie humaine. Et nous avons mis en scène cet enterrement de la grand-mère, où elle a pu hurler, et elle a surtout hurlé en éclatant de rire. C'est l'éclat de rire qui lui a permis de retrouver, elle, son élan vivant, de pouvoir vivre une deuxième fois ce qu'elle n'a pas pu vivre une première fois. Parce que c'est ça la devise de Moreno, qui était l'instigateur du psychodrame, toute deuxième fois, et la libération de la première. Et de le vivre va permettre une nouvelle reprogrammation cellulaire. Parce qu'il faut comprendre pourquoi ça marche si bien ce théâtre authentique. C'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le symbolique et le réel. C'est-à-dire que si je vous dis à mal, fermez les yeux et visualisez que vous êtes sur un vélo. Eh bien, votre cerveau va faire exactement la même chose que si vous êtes sur un vélo. Donc là, de vivre en direct et émotionnellement ce qui n'a pas pu être vécu dans la réalité de l'instant va permettre une reprogrammation cellulaire qui va donner suite à un élan vivant que la personne va retrouver en elle. On voit d'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans ce théâtre authentique, c'est d'abord l'amour intact, quelles que soient les catastrophes, parce que Dieu sait si on entend des histoires terribles dans ce théâtre authentique. L'amour intact derrière l'horreur. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir les visages se transformaient. On voit la reprogrammation cellulaire en direct. On la voit parce que le sang qui circule donne une autre expression au visage. D'ailleurs, il y en a qui me disent, mais c'est vrai, c'est mieux qu'un lifting. Tout d'un coup, il y a les traits du visage qui se... Il y a une énergie qui vient se repasser les traits du visage. Et le souffle qui reprend, et la respiration qui reprend. Et les symptômes aussi physiques qui viennent se manifester. Qui peuvent se manifester encore après le stage d'ailleurs. Hein.
Quel type de symptômes ?
Par exemple, tout d'un coup, une douleur au ventre. Mais alors un mal terrible qui vient se manifester. Et tout d'un coup, il y a un souvenir qui remonte.
Suite aux ateliers
Pas suite, pendant.
Pendant, d'accord.
Ça veut dire, waouh, là, je sens que j'ai tellement mal au ventre. L'enfant qui a vécu, par exemple, des attouchements, et qui n'a absolument pas conscience de ça, on le met face à un homme, là, sur scène, et tout d'un coup, là, il y a la conscience qui se réveille du petit enfant qu'il a été. Et tout d'un coup, ça émerge et paf, ça va exploser, ça va jaillir de lui. Et on a
délivrance.
Libéré exactement ce traumatisme dont on n'était même pas conscient.
Waouh.
Oui, c'est très très puissant. Et on va faire des liens. Pourquoi cette personne-là a tellement peur d'aimer, évidemment. Puisque l'homme est de toute façon dangereux par essence, on ne sait pas pourquoi.
Alors, c'est quoi aimer, Sarah ? Comment on aime ?
Alors, déjà, ce que je veux expliquer, c'est que ça n'a rien de romantique. Alors, le jour de la Saint-Valentin, hein, là, ça va vraiment, vraiment décevoir nos auditeurs, mais ça n'a rien de romantique.
Comment ça ? Je suis curieuse, tout ouïe. Dites-moi.
L'amour, c'est une énergie, d'abord. C'est-à-dire, le cœur, c'est la première cellule qui se met en place lorsque le bébé est fabriqué. La première cellule, c'est le cœur. Ça veut dire qu'il a bien une fonction. Et sa fonction, ce n'est pas d'aimer romantiquement. Un cœur, ça se contracte et ça s'ouvre. C'est-à-dire la fonction du cœur, c'est de vibrer. Et l'amour, c'est toute relation qui amène plus de vivant à la vie, qui nous ramène au vivant de l'être. Et on confond ça avec l'état amoureux, parce que l'état amoureux, alors ça vous fait palpiter, hein, mais ce n'est pas une palpitation cardiaque, l'amour. Ça, c'est l'état amoureux. Alors, c'est très important de passer par cet état amoureux pour rencontrer l'amour, hein, c'est une étape essentielle. Vous ne dites pas, ah ben ça palpite, donc ce n'est pas l'amour, donc je m'en vais, surtout pas. Ça, c'est le gâteau. Hein, avant de rencontrer, alors bien mieux qu'un gâteau, c'est-à-dire le nectar de la vie. Et ce nectar de la vie, qui est l'amour, c'est une énergie puissante qui vous amène à créer du vivant. C'est une chaleur, c'est une douceur puissante. Vous voyez ? C'est pas du tout ce qu'on imagine. Et c'est cette puissance qui va faire exploser tous les systèmes qui ne fonctionnent plus. Et c'est ça le sens de l'amour amoureux. C'est une rencontre qui va permettre de faire exploser ces systèmes qui ne fonctionne plus, et alors, où ensemble les blessures que nous allons rencontrer vont s'intensifier, ou au contraire, si on y met de la conscience, elles vont se réparer ensemble.
Vous dites ensemble, c'est dans un couple ?
Oui.
Dans le cadre d'un couple. D'accord.
Donc l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est une puissance de métamorphose, c'est une énergie. C'est l'énergie du vivant. Vivre, c'est l'autre mot de l'amour. Vivre. Et à chaque fois que nous sommes vivants, dans une relation, face à un paysage, en écoutant une musique, en méditant, en priant, en face à un petit enfant, à chaque fois que nous sentons ce vivant, ce flux vivant nous animer, nous sommes dans l'amour. Puisque c'est le fondement de notre être. Nous sommes fabriqués à partir de notre cœur, c'est-à-dire de notre cœur vibrant. Et ce cœur vibrant mène à aimer, mais il a d'abord comme fonction de vibrer, c'est-à-dire de fabriquer du vivant.
Donc c'est quoi ? C'est de la gratitude du vivant ? C'est...
On pourrait dire mais on n'est même pas dans la gratitude. Après, c'est le deuxième temps, la gratitude. C'est on est dans l'élan du vivant. Dans l'élan du vivant qui va nous autoriser à dire à cette personne que l'on aime, non, là, tu es en train de me proposer quelque chose qui n'est pas correspondant à mon besoin profond. Alors, trouvons ensemble une autre façon de vivre ce besoin. Tu as envie d'aller au sport d'hiver. Moi, j'ai envie d'aller au Baléares. Alors, je ne vais pas y aller pour te faire plaisir au sport d'hiver. Puis toi, tu ne vas pas aller au Baléares pour me faire plaisir. Mais on va trouver une façon commune de répondre à un besoin profond. Alors, ça peut être, eh ben, moi, je vais au ski et puis toi, tu vas au Baléares. Ça peut être un couple très autonome, pourquoi pas, une semaine. Ou ça peut être ensemble, eh ben, on va dire que cette année, on va au sport d'hiver. L'année prochaine, on va au Baléares. En fonction, ensemble, de un respect des besoins profonds et des sensations profondes. Donc, l'amour vous ramène à votre cœur, donc à vos sensations, à vos émotions et à votre besoin. Ça veut dire que quand je suis dans cette relation d'amour vivant, là, je suis capable d'être responsable de mes émotions. Là, je suis en colère. C'est pas après toi que je suis en colère. C'est que quand tu me dis, là, dans cet instant, tu ne sais pas t'occuper des enfants, moi, je me sens méprisée. Mais la véritable colère ne s'adresse pas à toi. La véritable colère s'adresse à moi, qui ne me crois pas digne d'être aimée et qui pense que, effectivement, je ne sais pas m'occuper des enfants. Donc, c'est celle-là qui doit être travaillée. Cette petite fille en colère qui a entendu quand elle était petite, oh, de toute façon, tu es capable de rien, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Alors, ce conflit terrible qui va vivre dans le couple, bien sûr, c'est important de ne pas laisser dire quelque chose qui n'est pas acceptable dans une relation, mais d'aller comprendre pourquoi ça me blesse autant.
Et pourquoi l'autre s'est senti autorisé à le dire ?
Exactement.
D'accord.
Il peut pas sans ma permission. Et c'est ça d'ailleurs un des sens du théâtre authentique. Quand on met en scène une situation, on ne parle pas des situations d'enfant. Hein, parce que l'enfant, c'est autre chose. Lui, il ne peut que s'incliner devant la toute-puissance de ses parents. Hein. Mais dans une situation de couple ou dans une situation enfant-parent-adulte, il y a l'enfant que j'ai été, avec la blessure d'enfant qui est la mienne, mais cette blessure que je continue, moi, à entretenir à travers mes relations. Alors, d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que je peux l'entretenir en étant tout le temps un enfant soumis, comme j'ai été, ou le contraire, c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en étant quelqu'un qui va mettre des armures autour de lui, comme prédateur ou comme Amazon, pour que ça n'arrive plus jamais et qu'il s'interdit d'aimer. Il y a, vous savez, c'est très connu ces exemples de ce mari parfait qui est un flic dans son entreprise, qui est un dictateur terrible. Ça veut dire toute sa partie colérique dont il n'a pas pris responsabilité, il va la vivre dans son entreprise. Donc, il y a aussi les rôles qu'on joue dans certaines circonstances.
Oui, vous en parlez dans votre livre. Ouais.
Et puis, il y a aussi, et ça c'est très important de le comprendre, les rôles que nous mettons sur le visage d'un autre. Ça veut dire, lui, ça va être le mari parfait. Il est gentil, il est serviable, il est généreux. Allez, je lui pose bien ce masque sur son visage et puis je le flatte avec ça. Puis lui, il entend qu'il a vachement intérêt à être comme ça. Et puis les années passent. Alors ça marche bien, hein. Puis les années passent. Et puis exactement la raison pour laquelle j'ai choisi, ça veut dire un homme serviable, généreux, gentil. Ça va être exactement les raisons pour lesquelles il va m'insupporter quelques années plus tard. C'est-à-dire, je l'ai choisi pour ses qualités et je vais le rejeter exactement pour ces mêmes qualités qui vont devenir à mes yeux ses défauts. Ça veut dire son impuissance à s'affirmer. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir aussi ces masques que l'on pose sur l'autre et l'autre peut être d'accord ou pas. C'est notre libre arbitre. Et justement, lorsqu'on est en contact avec ce cœur, cet amour, c'est important que cet homme-là soit capable de dire « Écoute, c'est vrai que j'aime bien te rendre service, mais là, tu m'en demandes trop. Et tu vois, là, m'occuper de tes impôts, là, c'est plus mon job et je vais te demander de prendre responsabilité de ça. » Voilà, c'est d'être capable de dire non et ne pas confondre le conflit avec la confrontation. Parce que l'amour vient aussi d'une confrontation possible entre deux personnes. Et quand je parle de confrontation, alors, le conflit, c'est la guerre. Les deux personnes sortent blessées de cette guerre. La confrontation, c'est ce que je viens d'exprimer. Non, je ne le ferai pas pour telle raison. Parce que je suis dérangée quand je sens que tu me prends pour ton valet de chambre. Moi, j'ai aussi envie d'être ton homme. Ça, c'est une confrontation. Et on n'est pas dans la dispute, on n'est pas dans la bagarre. On est dans la vérité du cœur qui va inviter l'autre à remettre en question sa façon de vivre son couple. Alors, en face, on peut avoir quelqu'un qui a suffisamment de conscience pour se dire « Mais il a raison. Je trouve que j'exagère un peu. » Mais finalement, peut-être que je commence à apprendre, moi aussi, à grandir toute seule. Ou tout seul. Et puis, on peut avoir la réaction inverse. De l'autre, tu dis « Quoi ? Je te prends pour le valet de chambre ?» Et ça continue. Et là, si vraiment on arrive à un stade où ce n'est pas possible d'être face à quelqu'un qui peut ouvrir la conscience à sa propre responsabilité, mais il y a un moment où il faut se poser la question de quelle est la part de moi qui continue à alimenter ça. Ça se joue toujours à deux.
Et d'abord avec soi-même.
D'abord avec soi-même.
Eh bien, merci Sarah. Pour toutes ces sagesses. Vous avez quelque chose que vous auriez envie d'ajouter pour les auditeurs ?
Oui, je voudrais dire qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est l'amour. Et que toute relation nourrie par le cœur est une relation de pouvoir au sens du rayonnement de l'être, au sens justement du pouvoir qui s'émerveille, qui gratifie, du pouvoir qui aime être en vie, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, aimer être en vie, et tout ça, ça se passe dans votre cœur.
Merci beaucoup Sarah. Je rappelle le titre de votre livre, Aimer sans masque, aux éditions du Seuil. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir Sarah. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du livre de Sarah Seriavic, Aimer sans masque aux éditions du Seuil. Je vous donne rendez-vous sur blumignou.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur.
Everybody, 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 ever